Buonasera a tutti, buonasera a tutti. E questo è L'Ora è Seria. E questa settimana restiamo con un sacco di stronzi che odio, ma non glielo dico. E on se retrouve cette semaine avec le Jeff Tuch napolitain qui conserve précieusement ses tickets restaurant dans son caleçon, prêt à dégainer du chèque de 7,50€, 8,50€, voire 10,50€ pour se payer enfin son triple mac and cheese burger bacon burger supplément bacon, un repas d'athlète pour conserver ce physique de dieu grec qui lui a permis de conquérir le cœur de plus de 24 femmes d'Europe de l'Est qui vivent toutes dans son modeste deux pièces parisien. Il est l'homme qui fait trembler le CAC 40 en s'empiffrant de 4K. Raphaël, bonsoir Raphaël.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et je tiens à dire que la moitié des femmes qui sont avec moi dans cet appartement n'ont pas été payées.
Avec nous également celle qui dévalise les plus belles bennes à ordures de la ville. Des glandeurs et de la glaneuse, elle est la reine, prête à enfouir ses mains dans une montagne de déchets pour dégoter enfin ce fameux t-shirt tant désiré ou bien alors ce repas inachevé. Il n'est plus nécessaire de la présenter ou bien de la représenter. Sa démarche chaloupée et sa présence se font ressentir violemment dans notre nez. Cécile, bonsoir Cécile.
Buonasera.
Ah, buonasera.
Elle le dit en espagnol.
Et on se retrouve cette semaine pour parler cinéma, pour évoquer ensemble l'un des autres piliers du cinéma italien. Après la scatophilie et les buffets au caca de Pasolini, on évoque cette semaine le scandaleux, sulfureux, affreux, sale et méchant de Torre Scola.
Ouais, Scola.
Scola.
Qui veut dire école en italien, si je me trompe.
Oui, exactement. Pas. Affreux, sale et méchant veut dire d'ailleurs école aussi. Donc
oui.
Tout le monde pensait que c'était école, école.
C'est un film sur l'éducation italienne dans les années 80. C'est super chiant.
Eh bien non, sorti en cinéma en 1976.
Plutôt les années 70.
Ettore Scola, il est né le 10 mai 1931 à Trevico. C'est un réalisateur et scénariste italien. Après des études de droit, il commence dès les années 50 à écrire des scénarios et s'impose comme l'une des figures clés de ce qui n'est pas encore une tradition mais va rapidement le devenir, la comédie à l'italienne.
Ah, la glace à l'italienne.
Ah merde, tu crois que je me suis trompé. Notamment avec sa première réalisation Parlons Femmes en 1960. On dirait le truc d'un podcast, tu trouves pas?
Parlons Femmes.
Parlons Femmes ce soir entre mecs blancs.
C'est ça.
En 1964, débutent alors les nombreuses collaborations avec les vedettes de l'après-guerre en Italie, Alberto Sordi, Ugo Tognazzi et surtout Vittorio Gassman. Il connaît de nombreux succès avec un genre qu'il développe alors mieux que quiconque, la comédie de mœurs, souvent assortie de satire sociale et d'une conscience politique aiguisée. Scola s'amuse à glorifier les perdants et petit à petit ses films deviennent de plus en plus provocants. En 73, Voyage dans le Vietnam marque un tournant dans sa carrière puisqu'il s'intéresse cette fois-ci au sud de son pays, à la crise des migrants et à la mainmise de Fiat sur le nord du pays.
Et ce sera encore plus choquant quand il fera Voyage dans le Fion deux ans plus tard.
L'œuvre de Scola se fait désormais plus grave sans qu'évidemment son talent comique ne soit atteint. Les succès nationaux et internationaux s'enchaînent. Alors nous sommes tant aimés en 74, Une journée particulière en 77, premier Oscar du meilleur film étranger, puis ensuite La Terrasse en 80, et dans les années 80 il passe alors en France où il réalise La Nuit de Varennes, Le Bal ou encore Le Voyage du Capitaine Fracasse,
Les 100 Dalmatiens également,
exactement, et Une partie du Roi Lion,
ouais, et La Vie d'Adèle,
oui,
chapitre 2, il est à la caméra.
Exactement. Couronné d'un deuxième Oscar en 87 pour La Famille, Scola retourne en Italie et enchaîne à son échelle ce qu'on veut dire les petits films. Il décède le 19 janvier 2016. C'est tellement drôle, laissant évidemment derrière lui une filmographie extraordinaire, un palmarès de prix impressionnant et une renommée mondiale incontestable. Mais ce soir on s'intéresse à l'un de ses films les plus représentatifs de son style corrosif, humaniste, politique, cruel, affreux, sale et méchant. On parle bien sûr de son film de 76, Affreux, sale et méchant. Et il faut le dire tout de suite, c'est le film préféré, le film avec lequel tu nous as fait
Raphaël.
Bien
Raphaël.
Allez, vas-y, dis tout ce que t'as à dire. On t'attend.
J'adore. Ah bon, franchement, j'étais très content de le revoir. Merci beaucoup. Merci à toute l'Académie des Césars qui m'a permis de revoir ce film. C'était superbe. Très, très sérieusement. Si je voulais voir ce film, c'est.
Est-ce que c'est une recommandation aux téléspectateurs de regarder ce film?
Regardez-le. À la semaine prochaine. mais en fait, c'est juste que c'est un film que j'avais en cassette à l'époque, quand j'étais petit. Et très petit, j'ai commencé à le regarder. Bah, allez, je vous le dis pourquoi. Parce qu'il y a des scènes de cul.
Moi, quand j'étais petit.
Ouais, voilà. Ça s'appelle des scènes de viol, mais oui.
Oui. Ah oui, sauf que quand t'as 10 ans,
ça explique beaucoup de choses de ta vie sexuelle.
Ouais, voilà.
Non, mais c'était vraiment un plaisir de le revoir pour le coup. J'adorais ce film quand j'étais petit, et en fait, je me rends compte que je trouve tout ça toujours aussi bien. Et voilà, je vais dire tout de suite, je vous ai déjà cassé les couilles avec Le Temps des Gitans.
Ouais, en fait, dans le même genre un peu, non?
Bah ouais,
un peu, ouais.
Je crois que je vois un
t'es
lien
trop
en fait, dans mes goûts. C'est ça, ouais, c'est que je peux pas m'empêcher d'être un putain de connard de gros. C'est
exactement ce que je me suis dit quand j'ai vu le film, je suis là. Je comprends pourquoi Raph adore.
Tu vois là la critique sociale, c'est tu la vois.
Dans les deux, on parle de Rome en plus.
Ouais. Exactement. De Rome, oui, à la fin, il y a des Roms qui débarquent, effectivement. Ah oui, non
mais c'est bon, il a eu la vanne, il l'a eu un peu trop tard, mais il l'a eu.
Il parle du Trastevere, mais c'est marrant parce que comme je suis allé à Rome depuis, depuis que j'étais petit jusqu'à maintenant.
Les bognate, on dit.
Et les pastas, tu vois, j'ai compris à quoi il faisait référence à ce moment-là.
Et toi, Cécile, c'est la première fois que tu voyais ce film. Qu'est-ce que t'en as pensé?
Ah, bah c'est très bien, c'est très bien.
12 sur 20,
je croyais pas que ce serait aussi badant. Genre, on m'avait dit comédie au départ.
Maintenant, mets-toi à ma place, genre à 8 ans.
Ouais, non, mais je trouve pas ça. C'est pas très drôle du coup. Enfin, c'est archi banal.
Ça t'a pas fait rire du tout ?
Ah, moi je trouve ça très drôle pour le coup.
Non, mais peut-être, mais moi ça me déprime, mais totalement ce genre de film. Je peux pas.
Non, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'en c'est que c'est un film qui date de 76, ouais. Qui a un titre quand même très sulfureux, qui a fait un scandale pas possible à l'époque, qui a été un bide, parce que justement, on a même reproché à Scola d'avoir appelé son film comme ça. En fait, moi, c'est un film que je voyais pour la première fois.
Ah ouais.
Et un truc, c'est que tu te dis, bon, d'accord, c'est un truc un peu provocant. Tu le regardes aujourd'hui, mais même aujourd'hui, toutes les 5 minutes, tu te dis, non, c'est pas possible. Ils vont pas. Oh mon dieu, ils sont allés encore plus loin que ce que je pensais. C'est un truc de. Même aujourd'hui, je trouve que c'est d'une.
Oui, ça reste.
D'une méchanceté. Oui, c'est pas violent, c'est d'une méchanceté et d'une cruauté absolument folle, quoi.
Bah, c'est ça que je trouve très drôle, c'est que t'as vraiment des scènes qui sont très marrantes. Où
c'est à la harakiri un peu, quoi. C'est,
ouais, mais en fait, c'est exactement ça. C'est très. C'est sans aucune concession. Et en fait, ça parle d'un sujet, ça dénonce la pauvreté, les bidonvilles. On aura l'occasion. Moi, j'ai regardé un petit peu les bidonvilles en Europe, jusqu'à quand ça a duré. Enfin, ça, je trouvais ça marrant de voir.
C'est fini la pauvreté, hein.
On
parle en 2020, il n'y a plus de pauvres dans le monde. Ouais. Donc,
D'ailleurs, estimez-vous heureux d'être né après les années 70.
C'est comme les mammouths.
Voilà, il n'y en a plus.
Voilà. Pareil qu'il y en a eu, mais
maintenant c'est fini.
Grâce à Emmanuel Macron.
C'est ça. Merci, président. Mais t'as vraiment une dénonciation de ces conditions. En fait, d'une manière qui est un peu marrante, c'est qu'il est pas en mode genre, regardez comme c'est vraiment dur. Il y a très peu de passages violents, tout ça.
Il est pas dans la complaisance.
Bah ouais, en fait, il montre ces personnes-là sont des monstres. Ils sont dégueulasses, ils puent, on les déteste. Et en fait, tu détestes les personnages, mais en fait, tu peux pas t'empêcher à la fin de te dire, ah ouais, en fait, je les déteste parce qu'ils sont dans une situation qui est juste abominable et ils te montrent la situation en te faisant détester les personnages.
Je vois ce que veut dire Cécile, c'est que c'est un film. Je lisais un article et c'est vraiment ce truc. Il disait, tu passes 2 heures à rire et à la fin de la dernière image, tu te dis, mais mon dieu, j'aurais dû pleurer pendant tout le film en fait. Et
c'est la dernière image qui est vraiment choquante.
Ce qui est assez fou, c'est que t'as. Enfin, moi, je suis complètement d'accord avec toi. C'est ça qui est un truc. Plutôt que de faire dans le larmoyant, c'est limite s'il se moque. Enfin, non seulement il attaque cette condition de vie en disant, regardez, c'est quand même affreux en face de Rome qui pue le faste, la basilique Saint-Pierre qu'on voit depuis
il y a une vue de balade.
Mais en plus, il attaque aussi les bien-pensants de gauche, les bobos qui vont faire une représentation, tu sais, genre du pauvre qui a la lumière du soleil, qui est en mode toujours gentil et vaillant. Non, là, les mecs, comme tu dis, mais c'est la fausse au lion, quoi. Ils se détestent, ils sont tous pires les uns que les autres.
Et en même temps, il a pas du tout un regard méprisant, tu vois. Il y a quelque chose d'assez tendre, en fait, dans la manière dont il filme, même si c'est des gens horribles et tout, tu vois ce que je veux dire. Genre, juste ce truc de la jeune fille, là, qui tous les matins, tu vois, ce truc un peu cyclique, va chercher l'eau et tout. Enfin, je sais pas, dans la manière dont il filme, tu sens qu'il est pas.
Surtout, ils ont un truc, c'est qu'ils ont aucune conscience de classe, en fait. C'est ça qui est assez violent.
Bah, en fait, c'est ça qui est très marrant, c'est-à-dire que quand ils voulaient faire ce film, Scola, il a commencé sur un documentaire en fait, avant de se dire non, je vais en faire une fiction, c'est plus intéressant parce que je retrouve plus ce que je veux en montrant en fait le sous-texte de ces personnages, parce que t'as rarement des personnes qui se comportent de manière aussi cynique, de manière naturelle en fait. Et il le fait d'une manière où il rit d'eux et il te fait rire d'eux, et en même temps il te fait prendre conscience que bah, c'est juste affreux et que ces gens-là sont dans une classe qui est juste niquée de A à Z. Ils ne peuvent pas appartenir à une conscience de classe de toute façon parce qu'ils se détestent entre eux. C'est ça qui est. Il n'y a aucune solidarité.
Au sein de la même famille, c'est ça.
Ouais, au sein de la même famille.
Du coup, on en a rapidement parlé. Est-ce que, Cécile, tu peux rapidement nous faire un pitch avant qu'on passe au détail du film ?
Alors, en gros, c'est l'histoire d'une famille où ils sont genre 15. Parce que...
même plus, je pense.
Ouais. Et ils vivent tous dans une vieille dans une maison qui est faite de briquet de broc.
C'est un bout de caravane avec des murs.
Et ils dorment tous dans la même pièce, etc. Donc, t'as la grand-mère, les 5 enfants qui ont chacun des gosses. Enfin, bref, c'est un bordel.
Ah, le petit 5 ans qui a une fille, c'est vraiment compliqué.
Et le personnage principal, si je puis dire, c'est le père de la famille, donc le chef de famille, qui est vraiment un harpagon de 1976, quoi, et qui veut absolument garder sa thune parce qu'il a en réserve quelques millions de francs, c'est ça ?
De lire.
C'est des lires, mais qui ne représentent en fait, je pense, 100 euros. Hein,
c'est des francs italiens.
Un truc comme ça. Et du coup, en gros, on sent juste que c'est un acariâtre complet qui boit toute la journée et qui veut garder son argent.
Tout commence alors dans les années 70, dans un bidonville de la banlieue de Rome, où on découvre, justement, comme vient de nous expliquer Cécile, une drôle de famille.
Mais oui, une drôle de famille, alors ça, 7 à la maison. Sauf que là, c'est plus genre 30 à la maison. Ambiance glauque.
Donc, en fait, on les découvre, ils vivent tous dans ce même baraquement qui n'est même pas une maison, en fait.
Tu le vois, à un moment, c'est une espèce de mélange de caravane éventrée avec lequel ils ont rajouté des murs en parpaing.
En tôle.
Ouais. Ils dorment tous avachis dans la même pièce.
C'est ça.
La seule pièce d'ailleurs de.
Au milieu, le lit central, le lit paternel de. Alors, s'il y a des Italiens qui nous écoutent, je suis désolé. Giacinto.
Giacinto.
Napolinotti.
Giacinto, donc qui en fait qui est le patriarche de cette petite tribu, qui va quand même de 6 mois à 90 ans, puisque même la mère de Giacinto vit avec eux, une femme complètement édentée, mais on reviendra sur elle.
Elle est amoureuse de
sur elle ensuite. Et en fait, Giacinto, comme tu nous l'as décrit, c'est un homme acariâtre, borgne, despotique, en fait, qui traite cette famille comme de la merde, on peut le dire.
Bah, la première scène, donc ça s'ouvre sur lui qui est en train de dire ils veulent me voler mon argent, ils veulent me voler ma cassette.
Comme mon grand-père.
Ah oui.
À la maison de retraite, on me vole.
Non, mais du coup, ça s'ouvre sur lui qui dit toute la famille essaie de me voler, et effectivement, il a pas tort.
Ouais, ça, on l'apprendra après.
Oui.
Il a au début, tort, tu te dis oh, il est fou et tout.
Il est fou, mais
puis comme le film n'épargne personne, finalement.
Bon, voilà. Final, c'est un peu rythmé par leur quotidien qui est toujours un petit peu le même, hein. C'est-à-dire que le matin, la famille se réveille. En fait, ils vont chacun aller faire leurs activités. Alors, ça se réveille dans un bordel absolument monstrueux.
Parce que je trouve le premier plan quasiment en fait une sorte de
plan séquence
qu'on pourrait dire. C'est un film, on l'a pas dit en intro, mais c'est un film qui a gagné le prix de la mise en scène au Festival de Cannes. Et en fait, dès le premier plan, en fait, tu dis ok, donc en fait, c'est vraiment un film de cinéaste. La caméra va constamment tourner sur elle-même. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que ça commence dans l'obscurité la plus totale.
Ouais.
Et en fait, petit à petit, on va voir cette maison se réveiller, et ça finit en 1 minute 30 de tout le monde dort, à tout le monde est en train de se frapper, à se jeter sur la table, à des casseroles qui volent, enfin c'est le bordel le plus possible.
Ça
mais en 1 minute 30,
des gens qui
une
se préparent,
virtuosité assez folle quoi.
Il y a des gens qui se préparent, il y a un des couples, il y a un des fils de Giacinto.
Qui est en train de baiser quoi.
Bah alors t'en as un qui est en train de baiser.
Oui, ouais.
Puis t'en as un autre en fait qui passe son temps à se battre avec sa femme, mais pas se battre à base de
ah oh, tu es chérie,
c'est genre vraiment je vais te cogner salope. Et ils se mettent des coups de fer à passer dans la gueule et tout.
Et on va découvrir qu'en fait, d'affreux, de sale et de méchant,
oui,
finalement.
D'abord, qu'on commence la journée par les enfants qui vont à l'école.
Mais, c'est-à-dire.
Je rigole.
Ça ressemble à quoi à l'école en fait?
Ça ressemble à une sorte d'enclos à poules.
Ouais, c'est un poulailler de luxe. Ouais.
Même les poules, je pense que ce serait pas cool si elles étaient là-dedans.
Allez, Roberto, fais la poule maintenant. Fais la poule, tu seras plus cool.
Cool, t'as une des petites qui va chercher tous les gosses du village. Et qui les fout dans l'enclos à poules.
Oui,
et qui ferme à clé, comme ça, pour la journée, tout le monde à la paix.
C'est ça. Mais c'est vraiment le fermer à clé, les enfants.
Ah, oui, bah. C'est ça.
Ok, au moins, bah, ils sont pas. Dans... Bah, en fait, parce que toutes les activités qui se déroulent dans le bidonville sont tellement crades. Genre, même aller chercher du pain, ça se transforme en vas-y, tu me montres je te touche les seins, etc.
Ouais.
C'est juste, bah, en fait, les gamins, c'est.
Mais j'aime bien parce qu'en plus, ça fait genre. Ces enfants, donc, ils sont un peu filmés comme genre l'innocence pure.
Ouais.
C'est le seul, à la limite, sur lequel il a un regard bienveillant.
Bah,
en même temps, c'est des enfants,
temps.
Quoi. C'est... Et vraiment, ils les filment en mode le peu d'innocence qu'ils ont, ils l'enferment et ils veulent pas te voir de la journée.
Ouais,
et une fois que ça c'est mis de côté, on peut faire mais tout ce qui est plus dégueulasse.
C'est marrant que tu dis ça parce qu'en fait il y a des enfants. En effet, la plupart on s'intéresse pas trop à leur vie, donc ils sont plutôt innocents. Mais il y a deux figures enfantines. T'as la fille qui va ramener, bon, qui doit avoir
une adolescente, quoi.
Qui est une ado, elle doit avoir 13-14 ans. On verra un peu plus tard qu'elle complexe sur son physique et qui est un petit peu elle l'innocente. Et d'ailleurs, elle sera le
bah
réceptacle
ouais,
de la dernière
seule,
image
ouais.
du film, très glauque. Mais t'as un autre des petits enfants qui est beaucoup plus jeune, qui doit avoir 5-6 ans, et son papy dans le lit qui est en train de boire sa bouteille dès le matin, dès 8h du Tams, il lui dit va acheter une autre bouteille, il lui donne de la thune, et le petit, on sent qu'il est déjà vicié, parce qu'il fait genre non, mais tu m'as pas donné assez, papy.
Ouais.
Son grand-père lui
dit non, surtout il lui dit ça coûte 1000 lire, il fait pas du tout, ça coûte 500, je me prends pour un con.
Il se prend une méga torgnole par son grand-père.
C'est marrant que tu ramènes tout de suite ça sur le côté de la thune, parce qu'en fait, c'est quand même ce qui va motiver principalement leur journée.
Le principe.
Tout le monde, en fait, à 9h du mat, hop, on se réveille, on va au boulot. Alors, il y en a qui ont des activités un peu légales, on va dire.
Bah ouais, bah il y a la petite là, elle bosse dans un immeuble, je sais pas ce qu'elle fait, du BTP.
Ou du BTP pendant qu'elle se fait quand même tripoter le cul par un maître d'ouvrage.
Oui, on voit pas, mais en fait, elle est dans le CAC 40. Mais c'est Anne Auvergeon.
Il y a la meuf, la seule meuf belle du village qui, du coup, va se faire tripoter le cul par des photographes.
Ouais, c'est une mannequina pour le Playboy.
Ouais, enfin, qui fait des mannequinas, voilà.
Mais c'est là que t'as
à Walpé.
C'est là que t'as le premier truc. Enfin, t'as plein de trucs déjà.
Elle est dans Girls Do Porn.
Voilà, c'est Girls Gone Wild. Mais c'est là que t'as les premiers trucs aussi un peu rigolos. C'est-à-dire que sa mère est fière que sa fille, en fait, ait un travail où elle pose dans Playboy.
Sa mère a moustache.
Mais au moins, elle est bien payée, entre guillemets.
C'est ça. Elle est payée de. Et elle a pas besoin de se faire niquer, elle.
C'est ça.
Elle est à poil sur la couverture de Playboy.
Il y en a un autre qui est coiffeur. Donc le fils de Giacinto qui essaie de monter sa petite affaire. Et alors, celle qui me fait le plus rire, c'est celle qui est infirmière. Et
ah oui,
coup,
c'est vrai.
Et quand même obligée, parce qu'on la paye, et en même temps, c'est même là-bas dans les hospices, c'est un peu la misère, pour branler les vieux.
Les vieux qui ont envie, quoi.
Putain, ça, franchement, trouve ça tellement drôle. Le petit vieux qu'on branle.
Ouais. Et là, oh non, bon d'accord Marcel.
Il lui dit c'est la dernière fois. Ça s'est déjà passé, putain.
Et surtout il pleure, tu sais, il fait vraiment le regard de chien battu en mode, tu sais, je suis trop vieux, je n'arrive plus à me masturber moi-même. Et il le dit jamais, tu sais, c'est en mode, s'il te plaît. Et là, quoi, elle met la main sur le côté.
C'est comme ça que je fais pour demander du sexe, moi d'ailleurs. Je me mets à pleurer. Et je trépigne, tu sais, ce qu'on mode de l'amour physique.
Mais pendant le dîner de Noël, c'est quand même chelou. Et surtout, donc ça, c'est ceux qui ont des activités, on va dire, légales. Et il y a ceux qui ont des activités totalement illégales, qui sont donc affreuses, sales et méchantes. Alors, on a ceux qui vont faire tout simplement du racket, du pickpocket.
Les petites jeunes.
Et dans le lot, il y a quand même un handicapé.
Oui.
Donc il fait du.
Ah oui, c'est vrai. Du, il fait la
manche.
Jambe, oui.
Alors il fait la manche et en même temps, il participe il des vols de sacs. Enfin, t'as aussi Nando, le fils qui est travesti.
Travesti. Ouais.
Qui se fait traiter de pédé par Sam. Mais alors,
et en même temps, ils sont pas en mode tu te détestes parce que t'es travesti.
C'est ça. Bon, de toute façon,
ils ont pas ces considérations bourgeoises en fait.
T'as un moment après, je vais un peu vite là-dessus, mais sa mère qui va aller à l'hôpital et qui va demander la défense de son fils. Qui dit à Nando aide-moi mon fils, et lui il se casse parce qu'il retourne travailler. Elle dit aide-moi mon fils, et une seconde après elle lui fait pédé. Ouais, c'est quand même un peu chaud.
Et donc lui il se prostitue, tu sens qu'il y a plein d'autres. Il y en a un autre qui va voler du mobilier qu'il essaye ensuite de revendre aux différents types du bidonville. Bref, c'est un peu le bazar. Et alors, pendant ce temps là du coup, Jacinto lui il passe sa journée dans son lit principalement
et au bar du village.
Exactement. Et alors dans son lit, on, comme tu le disais, en fait il a 1 million de lire qui ne représente rien, qui passe son temps à cacher et à changer de cachette parce qu'il est persuadé que tout le monde veut lui voler.
Ah, c'est ça en fait le nœud du film, c'est-à-dire qu'il a reçu de l'argent parce qu'en gros Jacinto a été victime d'un accident dans l'usine dans laquelle il travaillait. Il a la moitié du visage qui a été brûlé et du coup l'assurance, on comprend que l'assurance lui a accordé 1 million de lire, ce qui est un sacré pactole. Bah il veut.
Et surtout il le dit toujours en mode genre c'est vous qui a été brûlé, non c'est moi, genre en mode c'est le truc que j'ai fait moi.
C'est mon
ma gloire, c'est d'avoir été brûlé.
C'est c'est-à-dire c'est ma force de travail qui est reportée par ce million de lire. Et du coup il veut que personne n'y touche, c'est-à-dire que t'as sa famille qui a des demandes assez raisonnables, genre son fils qui dit si tu m'aides à monter mon truc, le coiffeur, tu m'aides, tu me donnes 300 000 lire et je peux faire le salon de coiffure et comme ça on gagnera de l'argent et tout. Et il dit va te faire foutre. qui a perdu son œil. Mais en fait il le garde un petit peu comme un totem, son argent.
Totalement.
C'est-à-dire qu'il ne le dépense pas non plus.
Non.
Il vit
non.
dans des conditions absolument mais dégueulasses. Mais
c'est Gollum avec son anneau, quoi.
C'est vraiment
ça.
Exactement ça. Il n'en fera jamais rien d'autre que le regarder amoureusement.
Et Jacinto, il a surtout une autre vertu, comme tu disais Cécile, il est totalement ivrogne. Il passe ses journées au bar, enfin c'est même
pas
une
sorte
de...
Bah oui, c'est les seuls riches entre guillemets du quartier, ce genre deux vieilles jumelles qui ont un peu d'argent et comme elles sont sur les bons plans, genre elles arrivent à avoir des clopes et tout, et que c'est entre guillemets le seul hôtel.
Ça a changé les demoiselles de Rochefort. Hein.
C'est clair.
Non, on dirait un peu les dames de la pub Tipiak.
Oui,
pirate, exactement ce que je suis.
Pirate.
Et du coup,
tu peux prendre nos clopes, mais jamais tu prendras ma smoule.
Et du coup, bah, Jacinto, il passe sa vie là-bas
en fait.
Avec aller draguer. En plus, il est là, genre, hey, t'es belle, t'es bonne. Il dit, ouais, t'es pareil à ma sœur. Et après, il prend l'autre sœur, il dit, ouais, t'es bonne et tout.
Non, ça, faut avouer que c'est quand même. C'est très drôle parce que non seulement c'est en fait c'est très crade, mais il y a un truc totalement burlesque et absolument ridicule à la Harakiri ou même Charlie Hebdo. Mais ce que je veux dire c'est que au début tu te dis non, en tant que de gauche, on peut pas rire de sujets aussi graves. Et lui c'est le mec qui te repousse le truc encore plus en disant genre tu sais quoi, mais si moquons-nous de notre conscience de gauche qui voudrait que la pauvreté n'a pas le droit d'être crade.
Faudrait quand même que on montre un grand patron, on pourrait rire de lui, je sais pas.
Non mais c'est exactement ça.
Ça serait bien si on pouvait dénoncer à un moment.
Et du coup en fait quand il rentre chez lui, Jacinto, complètement beurré, il montre alors une autre vertu que son alcoolisme, qui est sa
voyeurisme.
Mais d'abord la jalousie.
Bah oui,
il est absolument terrifié que sa femme le trompe.
Le trompe,
sa
ouais.
femme.
En fait, sa femme est juste allée acheter un truc à un vendeur ambulant qui arrive, pareil, il vend des trucs, c'est Tati, mais en pire. Et il est persuadé que sa femme l'a trompé avec. Du coup, bah, il la poignarde pour lui apprendre
simplement.
Une bonne leçon.
Devant tout
mais
monde,
d'ailleurs, après, on apprend qu'elle va aller se plaindre au commissariat et que c'est genre la 15 000e plainte et que du coup, ils en ont rien à foutre et qu'elle, en fait aussi, elle en a rien à foutre au fond.
Le commissariat, on va y revenir, mais ils sont très drôles, les commissariats.
Ils sont très marrants.
Mais surtout, il la poignarde et tu sens que personne ne bouge dans la maison. C'est-à-dire que t'as un autre fils qui attend, genre, bon, j'attends qu'il finisse de poignarder maman et ensuite je lui demanderai de l'argent.
Mais c'est là que c'est très drôle, en même temps, c'est affreux. C'est que t'as un petit gamin de 6 ans qui voit que sa grand-mère, en gros, est en train de se faire poignarder par son grand-père et pendant qu'il est en train de la poignarder, il prépare une bassine d'eau, un torchon pour aller essuyer les plaies de sa grand-mère. a 6 ans, quoi.
Surtout à un moment, il a un réflexe, c'est qu'il file le couteau à sa mère pour qu'elle le mette sous la gorge du mari. Enfin, genre, comme il est habitué, en mode genre, ils vont se vénérer. Hop, tiens, le couteau.
Je me décale de 3 cm. Voilà. Et puis, c'est là que ça tombe.
Et tu disais, donc, il est jaloux, mais il est aussi voyeuriste. Parce qu'un jour aussi, qu'est-ce qu'il va croiser ?
Eh bien, il va croiser dans sa maison. Hein. Tout simplement. Le PD.
Le PD.
Le travesti.
C'est comme ça qu'on peut dire. C'est comme quand on dit black au lieu de noir maintenant, tu vois. On peut dire pédaï. Mais tu peux dire pédaï.
Exactement.
C'est le conseil LGBT qui s'est réveillé, qui dit on peut dire pédaï, mais pas pédaï.
Le travesti. Il crame le travesti en train de coucher avec la femme de son frère.
Voilà. Okay, du coup, en fait, la bru de Jacinto,
voilà. Il le ressort, il est content de connaître ce mot.
Le mot bru. Et en fait, Jacinto les regarde, les deux, en train de s'enfiler. Mais en plus, ils se cachent même pas. Ils sont vraiment genre au milieu du salon en train de se
prendre. Avec la grand-mère derrière qui essaie d'apprendre à parler anglais avec sa télévision.
Et du coup, il se dit, Jacinto, c'est pas bien d'avoir couché
entre
vous.
Et en même temps, ça m'a un petit peu excité.
Ça m'a un peu excité. Et du coup, je vais te faire marcher.
Du coup, il va en profiter pour, la nuit, réveiller sa bru et lui dire, écoute, je vais tout dire à ton mari, sauf si tu me laisses profiter un petit peu du gâteau.
Dévergondé. Tu l'as faite, la mauvaise action.
Moi ? Mais qu'est-ce que vous dites ? Quelle mauvaise action ?
J'ai tout vu, tout, pendant que tu étais en train de te laver les cheveux.
Et alors, qu'est-ce que vous avez vu pendant que je me lavais les cheveux ?
Ce que j'ai vu, je vais te le dire, tiens-moi ce que j'ai vu. Tu t'es fait faire des saloperies par mon PD de fils, Nando, hein ?
Moi ? Mais non, mais vous avez pris un coup de chaud.
Te fatigue pas, va. J'ai tout vu, avec cet œil-là, espèce de petite vache en chaleur.
Vrai ? Je me suis aperçu de rien.
Ah oui, c'est moi qui avais le cul à l'air, peut-être. Sale petite vicieuse.
Mais vous me faites mal.
Non mais t'as pas honte, dis, de te salir avec le propre frère de ton mari sous le toit sacré de la maison familiale. Et si ton pauvre cocu de mari venait à l'apprendre, hein, qu'est-ce qui arriverait? Non mais si je le lui disais, moi, qu'est-ce qui arriverait,
hein? Oh, mais je vous jure que c'est pas de ma faute. Qu'est-ce que je pouvais faire? J'avais du savon dans les yeux, j'ai rien vu.
Mais tais-toi, nom de Dieu, ils vont nous entendre. Tu as le feu au cul, ma parole.
Une nuit, Jacinto fait un cauchemar. Il se réveille tout suant. En fait, il voit toute sa famille récupérer son argent et qu'il le dilapide, au profit du grand capital. Hein. C'est la course de la consommation.
Il fait le capitalisme.
Mais en vrai, c'était un des buts de Scola, c'est-à-dire qu'il voulait montrer comment cette sous-classe ouvrière réagit à la société de consommation et à quel point ce que la société de consommation promettait, c'est la libération de tout le monde et l'accomplissement de tous tes rêves, etc.
Dans la consommation.
Ça a asservi encore plus une partie de la population. Et donc,
je te coupe parce que c'est une scène, donc c'est un vrai rêve.
Oui.
Et je trouve que c'est le seul moment où le film est genre didactique. C'est-à-dire que c'est le seul moment où il te... Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, tu parlais que c'était un documentaire. Le film est quand même filmé très souvent, genre, ce qu'on dit, c'est à la longue focale de très loin. Tu sais pas si c'est de la vraie fiction ou si vraiment il a pris le truc sur le fait. Et là, c'est le seul moment où il te dit, bon, pour les couillons qui n'ont pas compris depuis une heure et qui pensent juste que je me moque des pauvres qui se roulent dans la fange, non, voilà ce que j'essaie vraiment de dire. Donc, je pense que c'est, je sais pas si c'est une qualité, mais c'est vraiment le moment où il te dit clairement ses intentions.
Ouais, puis après, c'est très drôle aussi parce que
c'est
en mode vieux clip des années 70, justement, c'est genre archi kitsch.
Avec la maman qui a tous les ustensiles de la ménagère de moins de 50 ans.
Et l'autre qui conduit son tractopelle aussi, c'est ça.
Enfin, tout le monde qui est heureux en fait avec des trucs de la société de consommation.
Et après, tout le monde qui est heureux sauf lui, du coup.
C'est ça.
Parce que lui, son rêve, c'est pas la société de consommation, c'est garder son argent.
Je veux garder ma cassette. Je l'aurai un jour.
Et donc, il se réveille et sa cassette, elle a disparu.
Du coup,
il est tellement dans sa paranoïa folle.
Il ne retrouve plus son argent. Il se dit putain, ils me l'ont piqué.
4h du mat.
Ouais, donc 4h du mat. Encore pire que le GIGN.
C'est ça.
Debout
Jacinto a perdu sa thune. Donc il réveille tout le monde.
D'ailleurs, le GIGN s'inspire de ces techniques. Il le lâche.
Ils ont jeté Jacinto là-dedans.
Tu le vois, lui là, il a ton argent. Et du coup, il fait un barouf monumental. Il réveille tout le monde.
Bah, un barouf, surtout qu'en fait, qu'est-ce qu'il a au-dessus de son lit ?
Un fusil. Mais d'ailleurs, en vrai, il s'endort tous les soirs avec son fusil. Hein.
C'est ça.
On sait jamais.
Oui, bah, si dans la nuit, je sais pas, t'as ton enfance qui revient à toi, tu te mets à sucer ton pouce, en fait, c'est le canon du fusil.
J'avoue.
T'es à deux doigts du drame, quoi.
Problème.
Tu sais, les jeunes qui sortent de boîte, qui se mettent à gueuler dans la rue. Ouais,
j'ai dit chute.
Et du coup, comme d'habitude, où tu crois que quelqu'un va être épargné quand même, et ben non, parce que du coup, son fils se prend une balle. Hein, mais encore une fois, ça paraît normal vu qu'il retourne au commissariat et qu'il n'y a pas de problème.
Et donc, comme on disait, on arrive ensemble au commissariat et on voit la gueule des deux flics. qui sont une sorte de parodie d'Italiens.
En train de boire leur café.
Tu sais, pré-Berlusconi, genre plus, 20 ans avant.
C'est trop violent parce que il n'y a même pas de justice. Ils sont vraiment dans la merde, quoi.
Il montre en fait le dossier.
Voilà, qui est énorme.
Tu me casses les couilles avec ton dossier de merde et tout. Genre, il dit, il y en a un comme ça pour chacun des membres de ta famille, même tes enfants les plus jeunes. Genre, juste au bout d'un moment, si tu reviens ici, que tu sois coupable ou victime, je m'en bats les couilles, je te mets 50 scrolls.
Ce qui est assez drôle, c'est que une des rares interactions que vont avoir toute cette famille du bidonville avec le monde extérieur, entre guillemets, ça va toujours être avec des institutions. Donc, ça va être soit avec la police à ce moment-là, soit avec, ensuite, on verra, le centre de dépenses, ou alors avec l'église.
Ouais.
Et à chaque fois, tous ces autres, à part l'église et peut-être le sang, mais en tout cas, les flics, ils sont dépeints comme limite aussi pires que.
Mais oui,
c'est
encore pire.
Et en fait,
c'est
là où, à nouveau, peut-être qu'il est pas didactique, mais vraiment, il monte genre, non, je suis là pour me foutre de la gueule de tout le monde.
Tout le monde en prend pour son
non, et puis derrière, il y a le discours de même quand ça se passe pas bien et qu'ils ont conscience et qu'ils font un geste civil, entre guillemets, d'aller porter plainte, tu vois. Et bah là, ça sert à rien. Enfin, tu vois, même, tu vois, c'est en fait, c'est. Moi, je trouve ça d'autant plus badant que plus drôle, hein, mais. Chacun son interprétation.
Et pendant que Jacinto, lui, il est au commissariat, la famille, elle se dit, bah, ça va être le moment
de trouver l'argent. Ouais.
Donc, il retourne la maison en mode ménage de printemps. Il le retourne tellement qu'au moment où Jacinto arrive.
Non, surtout Jacinto au commissariat, t'as oublié de préciser un truc, c'est que d'un coup, Jacinto en disant, mais non, c'est pas moi, ils ont essayé de me piquer mon argent qui est caché dans les chiottes.
Là,
il éclate de rire en mode, mais oui, putain, je l'avais caché dans les chiottes.
Ah, j'ai tiré sur mon fils pour rien.
Mais bon, ça, c'est le cadet de ses
Et donc, il est trop content. Et en effet, il rentre.
Bon, je vais reprendre le fusil si ça vous ennuie pas.
Mais pas du tout. À mardi prochain. À mardi prochain.
Ah oui, voilà, très bel accent.
Et prenez la pizza en
partant.
Et du coup, il retrouve sa thune et bien sûr, tous les autres, ils s'engueulent mutuellement en mode putain, mais t'avais des cavernes dans les chiottes, t'es un cacon.
Il casse la gueule au coiffeur parce que le mec a dit qu'il allait chercher les chiottes, mais pas assez.
Mais bon, qu'à cela ne tienne, en fait, c'est le moment en fait, vraiment de récupérer le vrai pactole, comme on disait.
Yes, la retraite de la vieille. C'est pour ça qu'on veut pas qu'elle crève, mémé.
Ça va, mémé. On va te sortir aujourd'hui.
Donc, mémé, 90 ans, la mère de Jacinto, complètement édentée,
abrutie par la télé.
Exactement.
Oui, complètement,
elle est à mourir de rire.
Elle parle anglais, du coup.
Ouais, elle apprend l'anglais en regardant des émissions italiennes qui t'apprennent l'anglais, mais avec des trucs méga compliqués. T'sais. C'est genre un moment où elle apprend a hassle. Tu vois, genre quelque chose de. C'est un emmerdement compliqué, mais c'est pas un mot que t'apprends. Mais elle l'apprend, tu vois.
Mais...
Enfin, la manière qu'elle a d'apprendre l'anglais me fait mourir.
Ce qui est merveilleux, c'est qu'elle bugle dans son coin toute la journée.
Ouais.
Et là, tu sais, on l'emmène au centre donc pour récupérer sa pension. Et elle pense qu'en fait on l'amène vraiment en maison de retraite, donc elle est en train de pleurer, mais c'est là, c'est limite, c'est un moment hyper émouvant.
Ouais.
Elle est vraiment en train de dire
genre,
je veux pas qu'on m'emmène à la maison de retraite, laissez-moi crever avec vous. Et en fait, elle a pas remarqué qu'ils sont juste là pour avoir sa petite
mais
signature.
Mais surtout que c'est bien joué parce que quand il la sort de la maison, il précise pas à ce moment-là qu'ils vont chercher sa retraite.
Ouais.
Et... elle doit être terrifiée à chaque fois.
Je veux dire pour le spectateur, parce que du coup, quand il arrive devant le guichet, tu sais pas, et quand tu la vois horrible et tout, tu te dis merde, il l'emmène vraiment à l'hospice en fait. Et après, genre une seconde après, tu comprends que c'est pour toucher la retraite. Tu vois. Mais du coup, toi, t'as eu le temps de d'être encore plus vénère contre eux.
Il aurait clairement pu être ça parce que, genre, tu vois, ils reçoivent la lettre, ils font ah merde, on reçoit plus assez d'hypothèses. Ouais, bon, bah, mamie, allez, bah, au revoir, bisous.
Bon, mon avis, il l'aurait abattu, hein,
mais du coup, à côté, le truc de la retraite, ça paraît moins grave et. Et du coup,
c'est drôle, c'est qu'ils arrivent avec la vieille, ils commencent à parler avec le meuf au guichet, qui vient en mode genre bon bah madame, j'ai besoin de. Et en fait, c'est toujours les enfants qui parlent. D'un coup, la vieille, elle fait son coup de signature, et après, hop, il récupère les mômes,
la
ça touche jamais les mains de la vieille.
Et ils se répartissent l'argent en deux secondes, quoi. Et la vieille, en revanche, elle a pas un copec.
Elle a une sucette.
Mais elle est contente. Ouais, elle a une sucette, elle est contente parce qu'elle est pas à l'hospice.
Exactement.
Ouais, je vais pouvoir retourner regarder la télé. C'est Clark Gable.
On retourne alors aux abords du bidonville où Jacinto fait la rencontre d'une prostituée.
Alors là, c'est la grande scène d'amour.
Dire, voilà.
Mais c'est à la Hollywood.
C'est assez beau d'ailleurs. Hein.
Non, mais la raison avec le coup du Hollywood, c'est qu'il se retrouve sous une sorte de panneau et t'as l'impression d'être en haut de Los Angeles à contempler
Sauf
la ville.
Sauf que t'as des poubelles partout.
Mais c'est assez émouvant comme scène parce que Jacinto, que depuis le début est dépeint comme un parfait connard, qu'il est hein, d'ailleurs, comme un monstre, bah, en fait, là, tu sens que c'est quelqu'un aussi qui est très seul, qui aime pas sa famille l'aime pas. Et finalement, il connecte avec quelqu'un, ils vont vraiment s'aimer, donc ils font l'amour. Parce que là, en fait, on comprend qu'avec. Il a décidé d'offrir la grande vie, en fait.
Voilà,
ça s'appelle Suicide, on a dit.
Il
a enfin trouvé un sens pour son argent, pour dépenser son argent, entre guillemets.
Il va le dépenser avec Izid, qui est d'ailleurs très gentil. Elle est, oui, elle est absolument très adorable, elle veut pas déranger, etc. Mais sauf que bah, il a Giacinto, il a d'autres idées. C'est-à-dire qu'il dit bah, j'ai une maison, j'ai de l'argent, viens t'installer à la maison.
Dans le lit de ma femme.
On peut être 31.
Et le deal qu'il propose à sa femme, c'est genre pas de problème, bah, tu te pousses un petit peu, on se met à trois dans le lit.
Et en plus, c'est un truc un peu attachant de, tu sais, il se ment un peu à lui-même en mode de, il se dit que c'est pas une prostituée et tout, que c'est vraiment genre l'amour, le coup de foudre et tout. Je dis bah, c'est une prostituée parce que dès qu'ils arrivent dans la maison, t'as Nando, le travesti d'ailleurs, je crois. Ah, normalement que ce soit un autre. Je sais plus. Non, le coiffeur.
C'est le coiffeur, ouais.
Le coiffeur qui décide de ken avec Izzyd et Izzyd qui dit oh, bon d'accord machin
mais fais vite parce que sinon
voilà c'est ça mais fais vite parce que sinon il va être énervé hein.
Non, mais, en fait c'est la mère enfin la femme de Giacinto qui s'énerve en mode ben non mais tu vas pas faire dormir une prostituée dans mon lit enfin c'est vraiment le déshonneur
ouais,
elle prend à témoin ses enfants en mode ben regardez ce que votre père fait et il commence à s'engueuler et pendant ce temps là en fait la caméra qui normalement serait restée sur l'engueulade ouais. Elle panote elle va sur le fils coiffeur qui fait dis donc tu baises Izzyd elle fait oui d'accord mais vite sinon elle va vraiment avoir raison quand elle me traite de pute
et à la limite lui il pose la question parce qu'après tout le monde va se coucher et débarque alors le gendre ou alors son fils je sais plus de Giacinto
un autre de ses
qui
fils
qui revient d'une soirée où il allait faire du chant chanter du Verdi chante. Et il revient et il découvre les fesses de Izzyd dans le lit
ah ouais,
et
c'est
hop
dégueu.
Il
dort,
passe sa mariette
hein.
Elle dort hein. Et il commence à se la faire et elle se réveille et le seul truc qu'il a à lui dire c'est chut faut pas qu'on réveille les autres
et t'inquiète je suis de la famille
et viol numéro 2
et viol numéro 2 et
4 je sais pas
en soi
c'est incalculable
c'est objectivement absolument immonde mais la manière dont c'est présenté c'est tellement grotesque burlesque qu'il y a un truc d'humour et on se dit mais mon dieu on devrait pas rire d'un truc pareil
et en même temps il y a un truc
immonde.
Non mais surtout il y a un truc encore pire c'est que dès que tu crois que tu vas t'attacher à un personnage parce que
ouais,
genre
clairement.
Là juste avant le personnage en question tu le vois ému en train de chanter de faire sa passion et tout machin tu te dis ah enfin un personnage auquel tu peux m'accrocher qui est à sauver et tout et bim il arrive et il cale la meuf dans son sommeil tu
c'est
vois
exactement.
Genre, bon,
il vient
bah,
tuer un enfant
non.
Avec ses propres mains
oh, je ne pourrais m'accrocher à personne dans ce monde de merde
et en effet trop c'est trop
et donc la famille va décider parce que la mère est vraiment touchée dans son heure
bah, normal
il faut qu'on tue votre père et
il y en a marre
il décide de ça autour d'une scène
ah, c'est horrible.
Méga symbolique c'est à dire qu'elle a une espèce de cadavre de bœuf de ouais. Viande qu'elle débite
et qu'elle
tous les enfants
et les gamins bouffent cru
ouais, quand ils débitent des petits bouts de viande et ils les mangent cru et ils disent voilà, la mère dit on va tuer je veux que tout le monde soit unanime là dessus donc tous les enfants de Giacinto disent ok on va tuer notre père trop c'est trop
c'est même drôle c'est le moment où ils ont une sorte de conscience pas de classe mais limite ouais. Familiale où ils sont en mode genre pour une fois on va se mettre d'accord sur un truc c'est que le père on le bute hein.
Et on prend l'argent ah oui
c'est
l'argent
c'est assez fort niveau mise en scène parce que moi j'ai eu un problème avec les sous-titres c'est à dire qu'il n'y avait plus de sous-titres pendant toute cette scène et j'ai compris qu'ils allaient tous tuer le père
mais alors c'est
et tu es le padre ils vont tuer le père
ils vont manger encore de la pizza je crois mais c'est marrant que tu dis ça que t'es plus de sous-titres ça vient sûrement du fait que t'as une version en fait comme c'est assez violent ce moment
ah,
de débitage de viande mais en fait t'as une version
oui, mais après, je
par
vois
DVD
quand même.
Pendant très longtemps qui ne comprenait pas cette scène et en fait
ah.
Qui est la scène mais méga importante parce que c'est la scène où il décide de
bah
tuer
oui,
le père qui est le point
très explicite quoi.
Qui est méga explicite et en fait qui est la scène le point tournant du film et
climax.
Donc suite à ce plan il décide de tuer le père en l'empoisonnant et ils vont le faire dans le cadre de un petit peu une fête de famille
ah oui,
pour le baptême
il va y avoir le
dernier.
Baptême du petit dernier et donc en fait ils se rendent tous à l'église à nouveau institution toute la petite tribu débarque et on
pour
cet
heureux événement
que ça va se passer dans la joie et les claques.
Renonces-tu au péché pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu? Dis-je renonce.
Qui, moi? Je
renonces-tu aux séductions du mal pour ne pas être dominé par le péché? Dis-je renonce.
Je renonce.
Renonces-tu à Satan qui est l'auteur du péché universel? Dis-je renonce.
Oui, je renonce.
Crois-tu en Dieu le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre? Tu crois,
petit con.
Veux-tu recevoir le baptême selon notre foi et la foi de l'Église que nous professons tous ensemble dans le Christ Jésus? Dis oui, je le veux.
Dis oui, je le veux.
Giacinto, oui. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
Amen.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est
avec
vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes.
Comme une de la famille. Regarde comme elle se trémousse dans sa nouvelle robe, cette suceuse. Je suis sûr qu'il l'a payée au moins 20 000 lire. Alors, Paris, qu'est-ce que tu dis à maman?
Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle est un peu plus parlante que toi.
Toi, t'es encore plus dégueulasse que ton père.
Et après le tour à l'église, c'est au tour du festin de roi organisé alors sur une terrasse.
C'est le festin de Lisa. Pas de destin bizarre.
Oh,
tu... sur la terrasse d'un bidonville, la scène est assez drôle.
Non, mais c'est
que...
sympa, oui.
Bah oui.
Ils ont l'air d'être habitués à cette petite adresse fancy.
J'ai dit,
très clairement, c'est dans le fooding 2020. Et tout. Putain, c'est vachement bien. Putain, une assiette de pâtes à 40 euros. C'est donné, mon gars.
En effet, assiette de pâtes.
Eh, mais en terrasse, hein. Ouais, tout le monde... top, you know, hein.
Tout le monde est réuni pour ce
petit déjeuner dominical pour célébrer le baptême du petit dernier.
Macaroni aux légumes pour tout le monde.
Bah ouais. Et même Jacinto qui, en fait, toute sa famille, il verse une petite larme. Il dit, c'est quand même magnifique, en fait, que toute notre famille se retrouve.
Oui, c'est vrai.
C'est quand même mieux qu'on
content.
A un peu la paix, quoi.
Ouais. Et il y a toujours la prostituée, d'ailleurs.
Oui, Izzy voilà. qui est là. Et c'est limite, c'est le moment où c'est même assez violent. C'est qu'en fait, nous, on sait en tant que spectateur qu'en fait, l'assiette de Jacinto est empoisonnée. Tout le monde regarde en mode genre, ça y est, on a qu'une hâte, c'est qu'il bouffe le truc, il commence à manger, il dit que c'est un certain goût. Sauf que à ce moment-là, c'est limite s'il a eu une sorte de mea culpa en voyant son petit-fils chanter une chanson, il se met à pleurer. Et il y a un truc encore plus cruel, c'est que eux l'ont vu pleurer et ils sont en mode genre, on en a rien à foutre, on veut que tu crèves maintenant.
Maintenant, tu vas manger ton assiette et mourir, enculé.
Ah ouais.
Et il est même à deux doigts de donner un petit peu de sa bouffe à son petit-fils.
Si on dit non, le petit-fils, il a mal au ventre, il mange pas. Sauf que bon, bah en effet, en plus du parmesan et des légumes, bah il y a un peu de morora et il commence à avoir un peu mal au ventre, le Jacinto.
Oh non, aussitôt. Non, c'est quoi la pub pour le... pas maintenant. Pour les diarrhées, là. Comment ça s'appelle le
truc? Ce n'est pas, c'est pas
c'est
le moment.
Ah oui,
c'est pas le moment.
C'est exactement ça, putain.
Sauf que bah, c'est pas le moment de mourir. Tout le monde commence à lui dire... Enfin, en gros, il comprend qu'il a été empoisonné.
Ouais, oh, la bande de traîtres, gnagnagni. Et il se casse. Et en même temps...
Sur un vieux vélo.
Ouais, il arrive quand même à se casser sur un vieux vélo parce qu'ils sont tous là, est-ce qu'il va mourir et tout. Tout le monde dit, ouais, c'est bon.
C'est
ouais,
évident.
Tout,
en fait, il commence tous à se battre. 200 grammes de...
Et on sait plus pourquoi, ouais, il commence tous à se battre. Comme d'habitude, imagine, voilà, les réunions familiales, ça finit comme ça.
Comment elle s'appelle, Isidre?
Isidre, oui.
Isidre, elle est un peu vénère qu'on essaie de tuer son chum, donc elle se bat.
Oui, parce
qu'elle comprend pas, se battre. Et tout le monde se bat parce que tout le monde se bat tout le temps.
Que Jacinto, du coup, il va jusqu'à une sorte de plage, il trouve une pompe à vélo, il se fait une sorte de lavage d'estomac improvisé.
Mais c'est très marrant parce que même dans cette scène qui est aussi dramatique et en même temps hyper stressante, parce que
et violente,
est-ce qu'il meurt, est-ce qu'il meurt pas,
etc. Et en même temps, toi, en tant que spectateur, t'as là, allez, crève, s'il te plaît, il y a plus de problème après.
Et là, on pensait qu'on avait vraiment touché le fond, et là, on en est au moment où il se fait vomir
et
tout l'estomac.
Et toutes les macaronis que tu trouvais plutôt sympa et bonne au départ, voilà.
Il vomit.
Alors d'ailleurs, petit faux raccord de production. Moi je me permets de le souligner, c'est-à-dire que les pâtes qu'il vomit, on voit très clairement que c'est des vermicelles, tu sais, ou des petites spaghettis.
Alors c'était des macaronis.
Bref, je suis un peu déçu.
Toute la famille pense qu'il est mort. Lui en revanche,
c'est
le soir,
estomac des Italiens, ça fait des macaronis et des spaghettis.
Tu m'as ce que tu me donnes, ça sera des spaghettis.
Exactement.
J'ai rien dans les manches, rien dans les.
Et des spaghettis. Hey, somebody touch my spaghettis. Sauf que le soir, bah, du coup, Jacinto il revient et il décide bah, tout simplement de foutre le feu à la maison.
Bah, en même temps, je comprends. Hein.
Il se venge, mais ils sont tous en mode genre, il est pas censé être mort, le vieux là.
L'espace d'un instant, je me suis dit, mais est-ce qu'il fout pas le feu? Et tu vois, alors t'as tout le monde qui va commencer à sortir, mais est-ce qu'il y a pas la prostituée qui dort encore quand même? Tu sais, après cette
mais merde.
Bon, tu veux rentrer à la maison avec nous en fait? Ça
non, ce qui
m'est
mieux, c'est que moi, ce que j'adore, c'est qu'il est vraiment en train de foutre le feu, tout le monde sort, et lui, il est hilar en mode genre, vous n'arriverez jamais à me buter, et c'est moi qui vais vous faire chier toute votre vie.
Ah, bah, il y a un truc très imagé, c'est-à-dire qu'il y a le feu, et lui, il se place sur un arbre au-dessus, et t'as vraiment un plan où tu le vois dans les flammes mais au-dessus et sa famille qui le regarde en mode putain mais on t'a pas buté toi. On n'arrivera pas à t'avoir et il commence à lui jeter des pierres
des
et tout.
Pierres il s'en fout, il a gagné quoi. Sauf que le lendemain bon, du coup, la famille commence à plus ou moins reconstruire rapidement la maison. Il y a un autre truc qui est très drôle je trouve, c'est que en fait on découvre du coup Jacinto qui vit encore avec Izzy dans un coin du bidonville.
Oui. C'est dans l'hôtel des vieilles je crois qu'il vit.
Oui Izzy elle dit genre ah c'est con que t'aies pas mangé les bonnes pâtes parce qu'elles étaient très bonnes.
elle est vraiment passe au-dessus.
Ah ouais non mais
elle dit ah non c'est con que t'aies eu de la morora parce que vraiment, c'est dommage, c'était vraiment des bonnes pâtes.
Elle a l'air con cette meuf, alors un truc.
Sauf qu'en fait, il a eu un petit plan, Jacinto.
Ah bah oui, un dernier plan pour faire chier tout le monde et pour que tout le monde soit dans la merde. Il a décidé de vendre la maison.
Eh oui. Et c'est Stéphane Plaza qui débat.
Exactement. Alors nous,
et nous, on va aller là.
Et non, du coup...
Ça a dû cacher. Hein.
Alors, il faut le voir comme ça, mais...
Hauteur de Rome, vue nickel.
J'ai fait venir une décoratrice d'intérieur. On vous a fait un petit plan en 3D.
Non, c'est du...
Je tiens à dire...
Home staging.
Home staging.
Je tiens à dire qu'à Rome, avec votre budget,
vous aurez pas mieux.
Il y a une offre limitée.
On va être obligé d'aller un peu plus loin dans les envies.
Ou alors faire des concessions sur votre demande.
Soit vous me dites, je peux trouver 10 000 de plus, soit on fait des concessions.
Sauf qu'en fait, on est un peu comme dans Avengers. Là, on se retrouve dans une sorte de crossover avec un autre film.
Ça serait bien que t'aies Thor qui arrive. C'est là le nouveau.
Et en fait, comme on disait, c'est un crossover d'un coup avec une sorte. Le temps des gitans, en fait.
Le temps des gitans, très clairement. Parce que c'est une famille de gitans avec un patriarche à la tête.
C'est une famille.
Qui est pareille, en fait, que l'autre.
De Rome à Rome.
Voilà.
Et t'as donc ça, cette famille qui arrive avec une scène aussi qui est très forte parce qu'ils viennent de la ville, ils montent les marches, le bidonville surplombe toute la ville. Donc ils
ça qui est fort en plus, c'est que c'est même pas genre un truc, c'est vraiment ils sont tout là-haut. Et ce truc des marches qu'on reverra d'ailleurs dans Parasite.
L'ascension sociale.
Oui,
ou finalement, la descente aux enfers peut être une montée.
Exactement.
Ça c'est extraordinaire.
Marche à la Basilique Saint-Pierre.
Et oui. Et nous avons ce soir Bernard Mazeneuve avec nous.
Bernard.
Je sais pas comment il s'appelle, mais c'est quoi son prénom?
Bernard Mazeneuve.
C'est quoi son
Gabriel
Mazeneuve.
L'ange Gabriel, voyons.
Ah, pardon.
C'est marrant, c'est la nounou de ma nièce.
Et du coup, ils se confrontent, la famille de Rome qui arrive en mode bah maintenant c'est à nous.
Et parce qu'en fait, ils ont acheté la maison.
Excuse-moi. Et maintenant, c'est à nous. Faire l'accent.
On l'a acheté 2 euros. Ils ont
acheté
la maison.
Et là, t'as Christian Clavier. Mais non, c'est pas possible.
Christian Clavier et Stéphane Plaza dans Bidonville à Rome.
Bon, alors ça, c'est le pompon. Moi, j'ai acheté la maison.
Et ma fille, elle va épouser un Rome à Rome.
Non.
Et en fait. Du coup, débarque cette famille qui dit à la famille de Jacinto, Jacinto pas là, cassez-vous quoi.
Bah oui.
C'est un peu la merde donc.
Sauf que eux, ils font genre, ils ont perdu le papier de la vente.
Ouais.
Et donc là, bah comme d'habitude, comme c'est le même genre de famille, ça part en tape. Hein. Tout le monde commence à se frapper et tout machin, c'est l'anarchie, etc. Et Jacinto arrive avec sa belle voiture qu'il a pu s'acheter. Il fonce dans tout le monde et dans la maison. Et quand il n'y a plus de maison, elle s'écroule.
c'est vraiment la.
Il est mais hilar quoi.
Ah ouais, c'est
lui,
le meilleur
genre,
coup
c'est
qu'il
le
a fait, quoi.
Best moment de sa life quoi.
De ouf. Et bah on se dit
petite ellipse.
Qu'est-ce qui va se passer? Petite ellipse et on est à nouveau dans le noir. On a un plan où on voit
similaire à l'ouverture quoi.
Voilà. Sauf que cette fois-ci on voit le patriarche des Roms qu'on reconnaît qui dort avec sa femme, ses enfants, et il dort dans les mêmes conditions, c'est-à-dire bidonville, t'as tout le monde qui dort les uns sur les autres. Et en fait on se rend compte qu'il n'y a pas que sa famille.
Bah non, il y a
aussi la famille. 60.
Voilà, c'est-à-dire qu'au lieu d'être 20 comme à la base, maintenant ils sont au moins une cinquantaine.
Voilà.
Et ça termine, en fait on se rend compte qu'ils sont tous dans la maison et que la manière qu'ils ont trouvé de résoudre le problème, c'est d'avoir la famille de Jacinto et la famille
bah oui, parce
des Roms.
Qu'il faut quand même une maison. Hein.
C'est ça, ils dorment tous sur le même toit finalement, entre pauvres. La conscience de classe, c'est peut-être ça.
Et sauf que Jacinto, bah lui, il n'a pas changé. Ouais. Il est persuadé qu'on veut toujours lui piquer sa thune et il commence toujours à médire et à prétendre que tout le monde veut lui piquer son argent. Et en revanche, bah, le quotidien reprend et on voit cette jeune petite fille qu'on a vue au début du film se lever pour aller chercher de l'eau.
Elle fait sa routine habituelle.
Et on parle enfin de ce fameux plan qui nous a un peu tous traumatisés, c'est qu'elle se lève et qu'est-ce qu'on apprend?
Elle est enceinte.
Voilà.
Elle a 14 ans.
Voilà. Alors que et c'était la seule innocente.
Et en plus, c'est un peu genre le cycle, la malédiction.
Bah oui.
De on va encore avoir des bouches à nourrir, etc. etc. Felicità, e tenersi per mano, andare lontano, la felicità. E il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità.
E restare vicini come bambini, la felicità. E c'était Affreux sale et méchant,
ouais.
Le film de Ettore Scola.
Allez.
Si.
Et c'est peut-être le moment de faire le dernier tour de table avant de manger une pizza ou des ravioli ou des spaghetti.
Des macaroni.
Des macaroni.
Il popolo.
Popolo. Toi, Cécile, qu'est-ce que tu en as pensé?
Eh bien, je réitère. Du coup, j'ai trouvé ça super badant. Non, mais c'est très bien. Hein, c'est très bien. Après, c'est un film quand je pense que je ne le reverrai jamais. Hein. Ou peut-être dans très longtemps. C'est comme,
c'est comme quoi, 40 ans après, ça, c'est toujours aussi
bah,
choquant.
C'est horrible.
Ouais, non, enfin, mais c'est
après, il y a plein de trouvailles. De toute façon, on en a parlé là pendant une heure, donc voilà. Mais ouais, je sais pas si je reverrai un autre film de lui dans le genre, en tout cas aussi. Enfin, moi, la comédie noire, c'est pas pour moi, je crois. Voilà.
Tu verras pas.
Adieu.
Tu verras donc pas l'Halloween des tuches. Ça, c'est comédie noire aussi.
Sympa,
hein,
ça
c'est un peu l'équivalent des tuches dans les années 70.
Oui, c'est exactement ça.
Par un vrai cinéaste, quoi.
Par un vrai. Hein, c'est un vrai film, en fait.
C'est ça.
C'est pas juste une campagne marketing.
Et toi, Raphaël?
Eh ben, écoute, moi, c'était un très, très grand plaisir de revoir ce film. En fait, je pensais pas que ça me plairait autant de le revoir. Et je me rends compte que c'est un genre de film que j'aime beaucoup. Que je trouve déjà très drôle, mais très intéressant et très beau d'un point de vue cinéma. Et du coup, je pense que c'est un must-see pour ça. Parce que c'est vraiment une branche du cinéma européen, du cinéma italien notamment, vachement poétique, vachement intéressant. Mais surtout, faut voir que c'est un auteur qui est très intéressant parce que c'est pas de la bien-pensance et du gna 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 entre soi gauchiste ou je sais pas quoi. C'est un mec qui a tapé sur la gauche, sur la droite, dans, notamment, je crois, nous sommes tant aimés.
Ah, nous sommes tant aimés.
Sachi sur la gauche comme
ah,
il faut.
Tiens, si je peux me permettre, parce que du coup, ça me grigne une reco. Mais Nous sommes tant aimés, en effet, c'est un film qui est quand même, comment dire, d'une méchanceté à nouveau, on revient là-dessus, sur la classe de gauche, où justement, c'est trois idéalistes, trois amis vraiment qui avaient des grandes idées pour leur pays et pour eux, et qui en fait voient qu'avec les années, bah, en fait, ils sont passés à droite et que c'est inévitable, on devient ce qu'on a toujours détesté être.
Non, mais c'est très clairement. Pour moi, je reviens du coup à notre film actuel. C'est essentiel de le regarder parce que c'est déjà c'est juste drôle, c'est super bien fait. Et puis bah c'est aussi une petite piqûre de rappel que il y a pas que des solutions magiques de gauche, etc. C'est que juste parfois des gens sont affreux, sales et méchants.
Voilà. Mais dans le regard que ça a, ça fait penser un peu à Candide de Voltaire d'ailleurs.
Ouais. Oh, fait des ponts avec nos.
Eh amis. Oui, je fais des ponts entre les émissions, les amis.
Et moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je trouve que c'est un film quand même qui est d'une modernité en fait assez folle et qui arrive à rester horriblement percutant à notre époque malgré le fait que des proches Coluche et tout ça on peut plus rien dire. Non mais je trouve ça assez fou en fait que malgré ça tu sais on nous a toujours vendu genre des films à la Orange Mécanique en mode genre c'est insoutenable et encore aujourd'hui c'est horrible puis tu les regardes en disant excuse-moi c'est plus mon époque. Là affreux ça les méchants les mecs franchement il s'est peut-être ruiné une comment on appelle ça, une opportunité commerciale à l'époque, mais en tout cas en revanche il a vraiment bien titré son film, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ça reste affreux, sale, méchant, cruel, dégueulasse, insupportable, mais très drôle.
Et surtout d'actualité, parce que je parlais du fait que je m'étais un peu renseigné sur les bidonvilles qui ont disparu dans les années 70.
Il n'y a plus de bidonvilles
en France,
dans le monde.
Normalement il n'y en a plus, mais dans les années 90 ça a recommencé, ça avait complètement disparu de la France, et ça a recommencé avec en fait notamment l'arrivée de migrants, parce que c'est en général des migrants qui étaient en France, c'était notamment des personnes qui venaient du Maghreb qui avaient été amenées pour reconstruire la France.
Et donc dans ce cas on peut recommander aux gens de voir Le voyage dans le Vietnam de Scola qui parle aussi justement de l'arrivée des migrants en Italie.
Et on peut vous recommander d'aller à Calais, d'aller voir la jungle de Calais. Et d'ailleurs fun fact, moi je viens à la base de Champigny-sur-Marne qui a été le dernier bidonville de France. Voilà.
Et il n'y en a plus. Grâce à Emmanuel Macron, tu es là et grâce à toi on va pouvoir faire une dernière tournée de recommandations et on va commencer avec Cécile.
Eh bien je vais rester dans le cinéma italien. Je vous conseillais de regarder les films de Nanni Moretti.
Oh, très bonne réco.
Bah oui, en plus j'imagine qu'on l'a déjà eu. Je ne sais pas, sûrement par toi, mais bon.
Je n'ose dire que Nanni Moretti est mon
cinéma. Bon, après, oui, c'est ça. Après, on est moins dans le social. Hein.
Bon, quand même, il y a grosse conscience politique.
Oui, voilà, c'est ça. Et donc, je vous conseille de voir tout son cinéma. C'est très beau, c'est l'Italie. Un autre visage de Rome, finalement. Dedans, cette fois. Mais voilà.
Et toi, Raph, pardon.
Merci. Pour ma part, je vais vous recommander d'aller voir Affreux, ça les méchants.
Ah
merde.
Ah bah non, tu peux plus.
Tu ne te plais.
Mais qu'est-ce que je vais recommander?
Maintenant, tu pourras. Non, mais tu pourras faire. En reco maintenant, CF, émission numéro temps.
Voilà, je vous recommande d'aller écouter notre émission. Non, je vous recommande d'aller voir pour le coup Le Temps des Gîtes. Merde, putain.
Non, c'est raté. Les infidèles, alors. Ça, c'est social.
Voilà, ça, c'est un vrai truc. Eh bah, écoutez, non, je vous recommande le cinéma italien de manière générale. Et je vous recommande, en fait, mon film
et
préféré, tout simplement, Il était une fois dans l'Ouest. Voilà, parce que c'est du cinéma italien. On change complètement de registre.
Sergio.
Voilà, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'introduire Était une fois dans l'Ouest. C'est un western spaghetti. C'est mon film préféré, tout bêtement. C'est le plus beau film qui a été fait d'un point de vue cinéma, de tout ce que ça raconte. Et puis, juste, c'est magnifique, c'est super bien joué, c'est superbe, la musique est extraordinaire. Et d'ailleurs, oui, petit point sur la musique de.
Ah oui, putain, on n'a pas parlé.
On n'a pas beaucoup parlé, mais
alors que je voulais en parler au début, ouais.
C'est une très belle musique, voilà.
Mais non, mais je vais pas commencer à faire la critique de musique, moi j'y connais rien en musique. Mais c'est très très beau. Bravo, je ne sais même pas comment tu t'appelles, brave compositeur.
Bah ouais, on a un petit thème qui apparaît de temps en temps, qui est très discret, qui est très léger, mais qui est très joli. Vraiment, donc une musique. Voilà, les cinéastes italiens. Et donc, allez voir Était une fois dans l'Ouest pour avoir de la très belle musique.
On peut faire une autre pirouette, c'est qu'un des scénaristes de Était une fois dans l'Ouest est Pier Paolo Pasolini.
Et qui devait apparaître au début de
La Fosse à les Méchants, l'homme du caca, Rick, en fait, qui a été assassiné peu de temps avant le tournage, donc il n'a pas pu apparaître à
Et d'ailleurs, dans le film de Nanni Moretti, Journal Intime, il y a une partie sur l'assassinat de.
On va sur les
Tout
plages
est lié.
À Austin. se recueillir sur le lieu de l'assassinat de Pasolini, en effet.
Je crois qu'il a raté également son rendez-vous aux acédiques à cause de cet assassinat.
Et ça, on revoit notre épisode sur les salauds et son majorité de Sodom.
Exactement. Tout rebique. Gaspard, une reco ?
Eh bien, écoutez, moi, je vais être aussi avec vous pour dire que le cinéma italien, c'est la vie. En plus, récemment, bah, juste pour faire une petite pirouette sur l'année dernière, ils ont fait quand même deux chefs-d'œuvre. Ouais, Martin et... Eden et Le Traître, qui sont absolument extraordinaires.
Et puis ils ont gagné l'Oscar du meilleur film étranger et du meilleur film avec Parasite. C'est le cinéma italien.
C'est
donc
vrai.
C'est
vrai. Non, mais en même temps, Parasite n'est pas très loin d'Affreux et Méchant dans le mode on vit les uns sur les autres et c'est la galère et Conscience de glace, etc. Et puis tous ces trucs de socialo. Non, tout ça pour dire que je sais pas comment rebondir. Peut-être pas sur le cinéma italien, mais un truc, il me semble qu'on a déjà recommandé, mais un film en tout cas qui est. Méchant avec tout le monde, qui n'épargne personne, aussi bien la gauche que la droite. Tu sais, c'est le genre de film où tu sais pas de quel côté on se place.
C'est et... qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Voilà, il faut le dire.
c'est... Ah, il est pas loin, mais j'aurais pu. Non, il me semble que je l'ai déjà recommandé, mais c'est The Square de Ruben Östlund, qui est un film profondément de gauche, mais qui démonte la gauche. Et je pense que c'est. Ouais. Exactement. Le geste de cynisme absolu et en même temps très élégant. Palme d'or au Festival de Cannes.
Ouais.
Et
enfin, c'est, tu peux pas trop être contre ce qu'il va dire. Parce que c'est juste un fait. Bon, je peux pas te laisser dire ça.
Je comprends pas.
Mais c'est un film que... Alors, vraiment, il y en a... C'est marrant parce que soit les gens le détestent, ce film, parce que peut-être que ça les attaque sur un truc qui pense... Soit ça les fait hurler de rire. Personnellement, c'est un film qui me fait vraiment hurler de rire.
Et voilà, tu viens de prouver que t'étais un connard de gauche.
Et c'est parti. Et on se retrouve la semaine prochaine pour parler cette fois-ci de bande dessinée et retourner dans le grand capital et bien, bien à droite cette fois-ci.
À Gotham.
Puisqu'on parlera de Frank Miller, on parlera...
De The Dark Knight Returns.
The Dark Knight Returns. Le Chevalier Noir est de retour. Et on retournera dans le cinéma le 27 mars prochain pour parler d'une autre Palme d'Or cette fois-ci.
La leçon de piano de Jane Campion.
Exactement. La seule Palme d'Or remportée par une femme car elle ne mérite pas plus que ça, les femmes!
Mais non, c'est Jean Campion.
C'est Jean Campion,
c'est Jean Campion.
Voyons.
Hein, on a été gentils avec vous, on va pas peut-être arrêter de vous donner des prix.
Elle gagne l'Oscar, tu vois. En fait, je suis un homme. Ah, bah je me disais
et
bien.
Et de quoi vous plaignez? Il y a 28 ans, vous avez gagné une palme d'or. Non, il est où le problème?
Non, mais c'est pour ça que le film est bien, c'est fait par un homme. Voilà.
Ça explique tout. Merci Cécile d'être venue. Merci Raphaël.
C'est un plaisir.
Merci,
merci
vous.
À vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous partager, de mettre des likes. De nous filer de la thune aussi.
Ouais.
Ouais.
N'hésitez pas.
Il n'y a pas de Tipeee ou quoi, mais.
Non. Mais si on se croise dans la rue, dans le métro, vous connaissez nos voix, n'hésitez pas.
On ne donnerait pas ton adresse comme ça, ils viennent.
Si, bien sûr.
Venez nous rejoindre au 45 avenue Richard Leclerc.
Boulevard de la République. Boulevard de la République.
75 017 18.
Et balancer de la thune par terre et je saurai que c'est pour moi. Je vous fais des énormes bisous.
Lasciatemi cantare. Con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare, perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Italia che non si spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in TV. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria e una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare, con la chitarra in mano. Lasciatemi italiano vero. perché ne sono fiero, sono un italiano. Un italiano vero.